Nous accueillons Véronique maintenant au 39-21. Bonsoir Véronique.
Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir Olivier, merci de nous écouter chaque soir.
Je vous en prie.
Et donc oui, moi c'est tout autre sujet que je vais aborder. C'est le problème du handicap.
Oui.
Et le problème d'un enfant handicapé dans une famille.
Oui.
C'est très compliqué lorsqu'on vit dans une famille où, si on peut dire, tout marche bien. C'est relatif aussi. C'est très compliqué de vivre l'arrivée d'un enfant différent. Et ça se fait progressivement. Et on n'est pas tous au même rythme dans cette acceptation. Voilà. Alors moi, je suis la grand-mère d'un enfant, j'ai un petit-fils, la grand-mère d'un enfant qui a une maladie génétique, musculaire, dégénérative, qui est une amyotrophie spinale. Voilà, ce diagnostic a été fait au bout de à peu près de 2 ans.
Oui.
Et ce qui m'amène à vous, c'est les difficultés de relation au sein de la famille, notamment entre les femmes de la famille, mais en tout cas, le positionnement, en fait, juste par rapport à cette maman, qui est ma fille,
oui,
est non anxiogène. Et la possibilité, la capacité d'écouter des mots justes pour que cette maman puisse se sentir épaulée, en fait, aidée.
Parce que ça n'est pas le cas, visiblement.
En tout cas, ce n'est jamais assez.
D'accord. Est-ce que...
Elle, oui.
Est-ce que vous pouvez m'expliquer par des exemples de quel positionnement vous parlez en parlant de ces femmes, de la famille? Est-ce qu'elles commettent
des impairs.
Des impairs, oui.
Ouais. Oui, alors, disons, je crois que c'est plus, je pense, l'ancienne génération, les arrière-grands-parents, qui est pas là, pas que, c'est paradoxalement, non, je suis pas juste, parce que il y a le grand-père qui prononce des paroles très très dures. Qui focalise toute l'agressivité, la colère, en fait, de ma fille. Et cette colère, cette agressivité me revient de plein fouet et elle a tendance, j'ai le sentiment, à, de par un isolement, de par, comment dire, le vécu d'une situation différente pour elle que celle des autres mamans, que celle des autres familles, etc., puisqu'elle a un enfant qui a des soucis majeurs de vie, de mort, et que l'on pourra...
Elle a
déjà probablement ce vécu ce sentiment d'isolement, cette impossibilité de transmettre en fait le cœur de ce qu'elle vit. Et là je pense que là les certaines des paroles ou des absences d'aide au moment pour elle opportun, immédiat, l'attire encore plus dans cet isolement et dans cette colère. Et moi, en tant que maman, mère, je n'arrive pas à... J'entends l'agressivité, je la reçois, je l'encaisse. Je suis sur le moment pétrifiée et je n'arrive pas à apaiser et à rassurer puisqu'il n'y a pas de possibilité en ce sens d'apaisement en fait pour elle.
Alors, lorsque vous parlez d'impossibilité d'apaisement pour elle, vous faites allusion à la maladie de son enfant ?
Oui. Ouais. Oui.
Donc, ce que vous voulez dire, c'est qu'il n'y a, il n'y a presque pas d'espoir pour cet enfant. C'est que cet enfant, lorsqu'elle prend conscience de l'état de son enfant, elle ne voit qu'une catastrophe, en fait, que quelque chose de très grave.
Oui, mais c'est de toute façon, effectivement, même si au quotidien, on lutte, et on entoure, cet enfant est entouré. Cet enfant est un survivant déjà, puisque l'année dernière, il a été hospitalisé en réanimation. Et au bout de quelques jours, donc, le professeur du service a annoncé le possible décès de cet enfant dans la semaine.
Oui.
Voilà, donc on était, moi j'avais assez peu de nouvelles, je l'emmenais beaucoup à l'hôpital, mais on était abrutis par et la fatigue, et le chagrin, et l'indicible total, oui. Le silence total pendant les trajets. Et cet enfant, au gré des manipulations, des essais du personnel, est arrivé après bien des tentatives à être débranché et arriver à vivre. Voilà. Il grandit physiquement harmonieusement. Mais après une telle épreuve, c'est une épreuve depuis la naissance, parce que c'est un enfant qui est né avec une fente palatine qui a été opérée. Et qui a un syndrome Pierre Robin, il y a une accumulation en fait de soucis. C'est un enfant qui est aujourd'hui un survivant, mais on ne sait pas, malgré un traitement qu'il a, une molécule qui est assez révolutionnaire, on ne sait pas quelle est son espérance de vie. Mmh. Voilà. C'est pas chaque jour en tout, même s'il y a un petit rythme de croisière, il peut avoir des compensations, de différentes natures, notamment respiratoires. Mais le traitement le tente à renforcer en fait sa tension musculaire. Mmh. Lui permet de faire maintenant des mouvements au niveau des pieds. Voilà.
Cet enfant, il a quel âge aujourd'hui ?
Cet enfant, dans à peu près un mois, aura 3 ans.
D'accord.
Et voilà. Et donc, bon, on sait que, ils vivent jusqu'à environ 20 ans, les maximum 40 ans, avec toute une armada de traitements. Là, il a déjà 2 fois par semaine de la kiné respiratoire, il a de l'orthophonie, et de l'orthophonie de l'alimentation. Il y a toute une mobilisation en fait des ressources musculaires par ou des injections, je crois que c'est de l'urcirène intrathécale et un soutien kinéthérapie. Mais la difficulté pour ma fille, c'est d'arriver à en parler sans colère, sans agressivité et sans larmes.
Ouais, ouais. En fait. Vous savez, c'est une situation que vous décrivez, que ce n'est pas la première fois que j'entends parler, hein, quelqu'un de ce type de situation, parce que votre fille et vous aussi, madame, vous vivez l'indicible, vous vivez une sorte d'enfer quotidien qui en fait est créé autour de la santé de cet enfant. On parle de souffrance d'un enfant, on parle de quelque chose qui est tellement injuste et qui rend tellement triste et qui met tellement en colère parce que un enfant qui souffre, c'est une situation absurde qui ne devrait pas exister, et malgré tout elle existe. Bien évidemment, la maman, le papa, les grands-parents, et puis tous ceux qui vous entourent et qui vous aiment, obligatoirement doivent souffrir de tout cela. Mais il est certain que c'est votre fille qui est en première ligne et qui tous les matins se réveille avec avec ce sentiment d'impuissance qui est totalement insupportable parce qu'il n'y a pas vraiment de solution pour que cet enfant ait une vie normale. On va continuer à l'évoquer, Véronique, ensemble.
Oui.
Et je vous dirai aussi ce que j'ai pu échanger avec certains de
oui.
ses parents.
Oui, volontiers.
Vous restez avec moi, on marque
oui.
une pause.
Oui, bien sûr.
À
oui.
tout de suite.
La libre antenne d'Europe 1. Olivier Delacroix accompagne vos nuits.
23h45 sur Europe 1. Vous êtes sur votre libre antenne qui vous accompagne jusqu'à 1h du matin. Et nous parlons avec Véronique, grand-mère d'un petit garçon de 3 ans qui est atteint d'une maladie génétique, amyotrophie spinale, qui est une maladie grave, bien évidemment, et qui fait de son quotidien un quotidien pas très gai, on s'en doute. En tout cas, qui fait de sa vie pas une vie réservée à un enfant de 3 ans et qui bien évidemment, touche la fille de Véronique qui nous parle ce soir de cette agressivité qui peut gagner sa fille et qui se retourne, si j'ai bien compris, contre vous, Véronique, parce qu'il faut à un moment que votre fille évacue. Alors, il y a plusieurs choses dont vous m'avez parlé dans votre témoignage. Il y a d'abord le positionnement de certains membres de votre famille, des femmes. On y reviendra tout à l'heure, des femmes notamment. Mais vous m'avez parlé aussi du grand-père. Tout d'abord, cette agressivité de la part de votre fille envers vous, elle est incontournable, cette agressivité, parce que vous êtes celle en qui votre fille a, je pense, confiance totalement. Vous êtes sa référence, vous êtes celle qui est proche d'elle. Et la nature humaine, elle est faite curieusement parce que elle se retourne contre vous aussi dans un moment de grande souffrance et que c'est vous qui prenez, parce que vous êtes la personne la plus proche d'elle, non ?
C'est assez complexe comme situation familiale, parce que mon épouse, son père, est décédé il y a 6 ans. Il est décédé quelques mois avant un mois avant son mariage et le baptême de du premier enfant, qui aussi elle a traversé déjà beaucoup de difficultés avec un premier enfant qui va bien maintenant, mais qui est passé aussi dans les mains de chirurgiens pour une raison qui est complètement différente.
Mais qui va bien maintenant.
Et maintenant qui va bien.
D'accord.
Il s'avère que donc son père n'est plus là, Et son père focalisait tout son amour. Chez elle, elle a des photos de son père.
Oui.
Et elle m'a dit que quelquefois comme ça par agressivité, enfin oui, on sent qu'il y a une tension en elle, que si son père avait été là, cela aurait été totalement différent.
En quoi cela aurait été totalement différent?
Probablement parce que elle pense qu'elle doit penser que son père aurait pu assumer ou l'aider plus peut-être que ce que sa mère peut le faire. Donc elle a aussi ça qui est de dire mais tu vois déjà mon quotidien. Quelquefois elle me dit mais tu ne comprends pas maman, mais enfin tu ne peux pas te rendre compte maman, parce que elle me dit déjà tu es à côté de moi, tu vois ce que je vis, ce qui nous arrive, mais malgré, imagine pour les autres ce que c'est, ils n'ont absolument pas cette perception, ils sont dans un autre monde, mais toi qui es à côté de moi déjà tu es à côté, voilà, tu n'es pas, il y a plein de choses que tu n'appréhendes pas, que tu ne perçois pas, mm-hmm. Que tu ne comprends pas ou que tu n'as pas, je les perçois, mais je suis défaite, je ne sais pas quoi faire en fait, je ne sais pas, je ne fais que voilà, elle a cette culpabilité, elle a cette culpabilité aussi, cette culpabilité d'avoir mis au monde, dit-elle, un enfant à qui elle fait supporter cette vie. Et culpabilité par rapport à son époux et à son autre enfant,
oui.
Puisque c'est un quotidien qui est difficile.
Oui.
Par ailleurs, son grand-père, qui est son arrière-grand-père, qui était médecin, une confusion des rôles entre le grand-père, je pense, et le médecin, puisque il ne fait que lui répéter qu'elle n'aurait pas pratiquement dû mettre au monde cet enfant. Et que
pourquoi dit-il ça?
Parce qu'elle serait détentrice, mais ça devient fou. Elle serait détentrice, elle hébergerait en elle, elle serait elle aurait le sorte de mal en elle. Oh sont ces mots. Oui.
C'est le grand-père qui dit ça.
Oui, oui, son grand-père. Donc elle est extrêmement cinglante, extrêmement. Elle a fait volte-face comme ça face à son grand-père. Il y a eu une sorte de rupture, une colère verbale.
C'est assez normal, non, Véronique? C'est assez normal qu'elle ait rompu avec
oui,
son grand-père.
Mais comme j'entends et sa sœur entend, mais que on entend, mais on ne veut pas exacerber les
tensions, les colères. Ouais.
Les tensions, elle considère que donc on n'est pas en fusion, on n'est pas avec elle, mais ouais. On n'est pas engagé comme elle, évidemment, on n'est pas de son côté, on n'est pas donc en mesure
de comprendre,
d'être en empathie totale avec elle.
Mmh.
Et c'est très complexe. On fait ce que l'on peut, mais ce n'est jamais assez.
Oui.
Alors, ce n'est jamais plein pour elle.
J'avais quelques questions à vous poser. Votre fille ne travaille plus du tout ou elle travaille si. Un peu, elle arrive à avoir une vie...
Non, elle travaille, mais elle tient à travailler parce que cet enfant est né, en fait, cet enfant, alors maintenant c'est un enfant qui a un rythme de croisière et qui est, enfin de croisière, c'est relatif, il y a toujours des événements dans la semaine qui peuvent se produire, mais c'est un enfant, on le sentait, qui était toujours en inconfort, qui pleurait beaucoup, qui pouvait pas arriver, n'arrivait pas à manger, qui n'arrivait pas, et on sentait, c'est un enfant qui avait presque le front ridé, tout petit, oui, bébé, oui. bébé, tourmenté, on avait un visage, on sentait qu'il était en lutte constamment. Et elle, il y a eu plusieurs moments où elle n'en pouvait plus et elle m'avait confié qu'elle ne voulait plus rentrer chez elle pour s'occuper de son enfant.
Oui, elle était épuisée.
Oui, probablement.
Ouais,
bah... Et donc, cette, même si elle était épuisée en allant travailler, elle ne pouvait pas ne pas travailler parce que le quotidien, être confronté constamment du matin au soir à un enfant qu'on ne pouvait pas poser. On ne pouvait pas poser quelque part. On ne pouvait pas dormir tout seul. Il devait être douloureux. On ne pouvait pas s'endormir dans les bras. Elle ne peut pas aller au restaurant. Elle ne peut aller nulle part avec lui parce que c'est compliqué. Il ne mange pas comme les autres. Il ne boit pas. Il ne peut pas. Il peut faire des fausses routes, etc. Donc, c'est une vigilance de tous les instants.
Oui.
Voilà.
Cela doit être totalement épuisant pour elle. Mais heureusement qu'elle travaille.
Oui, c'est ce qu'elle. Elle travaille. En plus, dans le domaine des livres, parce qu'on était des littéraires essentiellement chez nous, et c'est quelque chose qui lui permet de respirer, de
s'évader, sans doute. Mais voilà. Vous savez. On pourrait évoquer ce qui se passe pendant des heures.
Oui.
Le fait que votre fille ait ce sentiment permanent par rapport à cet enfant d'injustice, de douleur pour lui, parce que je pense qu'elle, en tant que mère, elle ressent presque dans son corps, quitte à exacerber même cette douleur. Ce que cet enfant ressent. Cet enfant, il est quelque part le symbole de la douleur, de l'injustice, comme je vous le disais tout à l'heure. Il cristallise aussi sa culpabilité, qui, mon Dieu, a dû être à un moment décuplée parce que ce qu'a prononcé ce grand-père. Et je me demande où parfois certains vont chercher sans réfléchir.
C'est terrible.
Parce que il y a quelque chose contre lequel vous ne pourrez pas lutter, malheureusement. C'est cette culpabilité et ce mal permanent que lui renvoie cet enfant. J'aimerais vous dire autre chose. Mais cette situation, elle ne pourra s'améliorer que selon votre implication, selon votre sensibilité à vous qui s'améliorera, parce que vous dites que par moment, vous faites comme vous pouvez, mais que vous sentez que ce n'est jamais assez. Mais je pense que votre fille, elle souffre de ce sentiment déjà, que ça n'est jamais assez pour son enfant, puisque elle est comme dépositaire du mal, vous voyez, comme si elle s'en veut d'avoir mis au monde cet enfant, de lui faire vivre cela et tout. Donc du coup, ça c'est infini ce dont on parle. Je pense que la seule chose qui puisse soulager vos relations aux unes et aux autres, mais je pense que c'est avec sa sœur et vous qui êtes les plus proches d'elle, c'est d'arriver à la soulager parfois en étant vous près de cet enfant et lui permettre de prendre du temps pour elle.
Oui, c'est ce qu'on essaie de faire.
Et pour l'enfant aussi, parce que c'est important que cet enfant, il sente sa mère un peu apaisée par moment, vous voyez.
Elle a permis en fait à... Elle a permis cet enfant, en fait, c'est comme si cet enfant rééduquait, nous aidait à rééduquer quelque chose dans la famille qui était aussi... Il y avait comme une forme de maladie dans la mesure où les grands-parents étaient toujours dans, dans la réussite, dans l'anticipation, dans la stratégie, tout le temps des stratégies.
Oui, mais souvent.
Or là, ouais. On est obligé de vivre dans l'instant. Mm-hmm. Et elle me disait, mais nous, on n'a pas besoin d'être tout le temps dans la compassion et dans la pitié pour cet enfant et pour nous. On a besoin d'énergie, on a besoin de joie, on a besoin de sourire. Et on a été amené à changer.
Mais vous savez, Véronique, on va continuer à évoquer cela parce que c'est très important ce que vous dites. Quand un enfant comme ça naît dans une famille, c'est vrai que il répare aussi malgré tout à travers la douleur et il répare beaucoup de choses. On se quitte quelques instants et on se retrouve juste après le journal si vous voulez bien. À tout de suite.
Europe 1. 22h30, 1h, la libre antenne. Olivier Delacroix.
Et vous êtes toujours sur votre libre antenne, sur Europe 1, et nous vous accompagnons jusqu'à 1h du matin. Nous sommes avec Véronique, avec qui nous évoquons une relation compliquée, difficile, avec sa fille, maman d'un enfant handicapé. Véronique, nous évoquions donc ce quotidien qui était celui de votre fille. Vous évoquiez aussi le fait que cet enfant, quelque part, avait réparé la famille. J'aimerais que vous développiez un petit peu ça.
Eh bien, cet enfant nous permet, je pense, d'abord de vivre le moment présent, complètement, pleinement,
oui.
sans se soucier du lendemain. Et c'est un trésor précieux, infini. Donc il y a déjà ce point-là. Deuxième chose, cet enfant nous permet aussi d'abord de vivre une autre expérience humaine, probablement une autre expérience humaine qui n'est pas normée. Normé parce qu'on était dans un système du grandir probablement extrêmement normé.
Oui.
Et cet enfant, il nous permet aussi de nous libérer du regard des autres, de faire un travail, un cheminement là-dessus et d'acquérir. Probablement parce que, bon, j'allais dire, j'étais déjà dans le décès, mais c'est parce que on a vécu 3 décès de personnes très proches, donc à la suite du père, donc de mon mari. Et je pense que le décès ne nous fait plus peur, c'est terrible à dire, parce qu'on a déjà côtoyé, on a déjà vécu avec ces personnes qui passaient d'un état de vie à un état de mort et souvent sur des mois. Donc cet accompagnement, mais donc on est dans une joie qui est ineffable et qui peut être scandaleuse au regard d'autres membres de la famille, qui est presque indécent, parce qu'on n'a pas le droit d'être heureux quand on a un enfant handicapé. Quand il y a un enfant handicapé dans une famille, on ne peut être que dans la lamentation, dans les pleurs, et qu'est-ce qui va arriver après. Et ce n'est pas ça. Donc il y a vraiment cette notion de réparation, même la réparation de quelque chose qui est vivant, mais qui ne vivait pas complètement, qui n'avait pas pleinement conscience de ce que c'était que juste le cœur qui bat. le cœur qui bat, et la présence, être à l'autre présent, en fait, de façon vraiment authentique, sincère, et aimer l'autre pour quelquefois peu de choses ou beaucoup d'échanges aussi, quelquefois, qui ne se fait pas uniquement par des mots. Et c'est tout un apprentissage. C'est très émouvant d'avoir devant soi un petit être qui peut nous apprendre autant de choses, en fait.
Ouais.
Qui est déjà si fort aussi. Donc, on devient très humble et modeste face à cette créature qui est cet enfant qui est là, qui se bat, lui qui se bat, qui veut être là et qui est heureux d'être là aussi, même s'il souffre. Et qui nous montre maintenant qu'il est heureux d'être là, parce qu'il accède au langage progressivement. Et ça, c'est étonnant. Ce sont des cheminements, des découvertes. Ça apporte aussi beaucoup de joie. Mmh. Parce qu'il est heureux et on ne peut pas ne pas être heureux d'être là et d'être à côté, d'être avec lui. Il ne comprendrait pas.
Et c'est justement de là que naît cette dimension immense dont vous venez de parler. Oui. Mais est-ce que votre fille a conscience de ça parfois ou est-ce que...
Je crois que, oui, enfin je ne sais pas si elle a conscience de ce que je viens de vous partager. Je sais qu'elle a, enfin en tout cas quelquefois dans des réflexions très très incisives, elle met en miroir en fait ce qui se passe dans sa vie et dans sa relation, cette situation avec la situation ancienne, si je puis dire, de la famille ou de certaines personnalités, positionnement de certaines personnalités dans la famille. Elle le met en miroir parce qu'elle se rebelle contre ces anciennes normes au vu de ce qu'elle vit elle aujourd'hui.
Oui, parce que
vous êtes nouveau.
Vous êtes dans une nouvelle dimension.
Voilà.
qui ne sera jamais la dimension des autres membres de la famille.
Oui,
ils ne s'en approcheront même jamais.
Oui.
Donc il y a quoi qu'il arrive, il y a 2-3 galaxies entre vous et les membres de cette famille.
Oui, c'est bien dit parce que ce sont mes parents et donc quand je tente de répondre à cette immensurable tristesse de leur part ou anxiété, je me sens quelquefois
incomprise.
Je ne suis pas entendue dans ce drainage de oui, on est heureux, on est là, il est là, on est joyeux, on est heureux et ça va bien. Voilà, aujourd'hui, ça va bien.
Ouais.
Et ça, comme vous dites, sont des galaxies. Et c'est la solitude en fait aussi inhérente à chaque chemin, j'ai l'impression. En fait.
Oui, mais je pense que malgré tout, il faut vraiment par sagesse essayer de vous résoudre à ne pas essayer justement de leur faire comprendre ça, parce que je pense que c'est une question aussi de génération, je pense. Il y a toute une manière de penser que vous avez développée, vous, vos filles, qui n'est pas du tout un système de pensée lié à vos parents et qui ne le sera jamais. Vos parents, ils sont sans doute dans le premier degré de la perception des choses,
ils sont juste dans le
oh là là, il est malade, il va mourir, il est malheureux,
c'est vraiment
très triste.
Sauf que vous
êtes dans une dimension qui est celle de, on vit cela, on doit vivre cela, et qu'est-ce que nous faisons de cela.
Oui, tout à fait.
Est-ce que vous en faites, c'est quelque chose de très beau et d'immense. Et c'est en cela que cet enfant provoque ça. Et comme vous l'avez dit, cet enfant...
Il provoque ça.
Et cet enfant est sûrement très heureux d'être entouré comme il l'est.
Et
c'est là
et
où
il
est
a
toute
un très
la difficulté.
Gros caractère.
Ouais, mais c'est là où est toute la difficulté pour votre fille aussi, qui parfois ne doit être que focalisée sur vous voyez, sa culpabilité à elle et sa peine. Et par moments, elle oublie sans doute cette dimension-là. Et c'est normal.
Oui.
On a une maman, maman elle-même d'un enfant handicapé, qui nous écrit quoi qu'on fasse. Quoi que vous fassiez, votre fille sera toujours dans la culpabilité. C'est le lot de toutes les mamans d'enfants handicapés.
Ah oui.
Mais faites confiance à l'amour et au temps. Mais c'est un peu ce que vous venez de dire, quelque part.
Oui. Mais c'est très, très douloureux pour la maman que je suis de voir, d'attendre à côté en sachant qu'on est juste à côté.
Bien sûr.
Et que l'on ne peut pas... Avec les reproches quelquefois non dits, voilà, c'est douloureux de pas pouvoir faire en tant que maman, voilà, plus que ce que l'on, autant que ce qu'elle souhaiterait.
Mais
il faut
que vous gagniez en sagesse par rapport à ça, parce que il y a une limite que vous ne pouvez pas dépasser et que vous ne dépasserez jamais, c'est que vous n'êtes pas la mère de cet enfant et que vous vous heurterez toujours à cette frontière-là, ce mur-là même, parce que vous devez faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses déjà. Mais il y a une limite que vous ne franchirez jamais, parce que cette limite, elle est juste naturelle, et c'est la relation que votre fille a à son enfant et tout ce qui en découle.
Oui.
Parce que vous n'êtes pas la maman de cet enfant, vous êtes la grand-mère. Et,
c'est vrai.
Et il ne faut jamais oublier, il faut essayer d'entretenir, d'avoir bien ça à l'esprit pour justement garder votre lucidité qui vous amènera à accepter de toute façon... ces écarts d'humeur, ces rébellions, ces accès d'agressivité, parce qu'ils sont incontournables aussi. Il faut à un moment que votre fille exulte un peu toute cette peine qu'elle a. Et généralement, c'est aussi une preuve d'amour que ça soit envers vous. Vous voyez, c'est assez complexe, bien évidemment. Mais...
Oui.
C'est très intime, vous voyez, donc c'est pour ça que c'est avec vous que ça se passe. Et non avec tous ceux qui ne comprennent rien dans la famille.
Oui.
Parce que vous êtes dans une autre dimension.
Oui, c'est très émouvant ce que vous dites. Exact. Et c'est très juste. Ouais. Et j'ai l'impression quelquefois d'être vraiment comme un rempart en pleine mer.
Vous l'êtes.
De subir ses assauts, comme lorsqu'elle était enfant. Elle peut être très, très, très. Elle a deux aspects, très, très. Tout social. Quand elle est avec tout le monde, elle est tout sucre, tout miel, mais elle a un tempérament derrière volcanique. Et enfant, elle avait des crises comme ça, de capri, enfin, oui, des crises. Et j'ai l'impression de subir en vieillissant, mais je fondais, je ne pouvais pas supporter ça.
Ouais.
Maintenant, j'arrive à fermer, à laisser passer. Et ensuite, la dernière crise, ensuite, elle revient.
Elle
revient avec plus d'affection.
Ouais.
Et, voilà. Mais c'est comme, je n'imaginais pas que, voilà, quand même, à mon âge, on puisse être confronté encore. On est aussi forte, en fait. On n'y arrive pas tout le temps à être fort comme ça.
Mmh. Vous savez,
on n'imagine pas qu'une mère, ça doit être fort devant, avec ses enfants. On a aussi nos faiblesses et nos difficultés. Et là, on est obligé de se faire une sorte de...
De carapace.
De carapace, oui, quelque part, tout en restant vrai, mais...
Et de se surpasser aussi, comme vous le faites. parce que c'est aussi de cet ordre-là. Mais vous savez, on a tous plus ou moins de développer cette capacité à se dépasser comme vous le faites là. Parce que votre fille vous montre, quelque part, vous montre cela quand elle vit ce quotidien, cette relation avec cet enfant. Sans que vous le réalisiez, elle vous tire aussi vers le haut et vous aide à vous surpasser aussi.
C'est une chance de vie, oui, aussi.
En tout cas, tout à fait. Merci d'avoir eu le courage de nous livrer ça, parce que c'est très intime en même temps que très, très puissant. Et je n'ai pas envie de dire que c'est triste. C'est juste.
Non.
C'est juste. Vous vivez une vie hors norme, là.
Oui, mais
hors norme à tout niveau, en fait. C'est ce qui fait. C'est ce qui fait la puissance de votre aventure de vie.
Oui, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de. Pas d'élévation, mais qu'il y a quelque chose dans la conscience ou dans le cœur qui s'ouvre comme ça, quelque chose qui monte, qui se purifie en fait. Mais voilà, je voulais vous remercier aussi pour vos mots et la justesse de vos mots qui sont vraiment capables de nous faire prendre conscience, de nous faire exprimer des choses qui sont extrêmement, comme vous dites, intimes.
Oui.
Voilà.
Je vous souhaite une bonne nuit, Véronique.
Merci aux auditeurs aussi.
Et embrassez les vôtres pour nous.
Et puis, merci beaucoup, Olivier.
Je vous en prie. À bientôt.
À bientôt. Au revoir.